la fin, elle a pas de religion, elle a pas de frontières, elle a pas d'ethnie, donc tout le monde est bienvenu pour qu'on puisse à ce moment-là les distribuer un peu à tout le monde.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Cette année, le coronavirus a agi comme un révélateur d'inégalités. La précarité s'est ajoutée à la précarité. Et la crise du Covid n'est plus seulement une crise sanitaire. Elle devient aussi une pandémie de la faim. Partout dans le monde, la crise alimentaire s'accentue. Même dans les pays du Nord, la faim touche de plus en plus de personnes. Selon des chiffres d'Action contre la faim, la moitié des personnes qui demandent des paniers repas aujourd'hui ne le faisaient pas avant l'arrivée du coronavirus. Les associations parlent donc d'une véritable bombe à retardement social. Alors que les dépenses alimentaires sont habituellement une variable d'ajustement pour les ménages français, des parents réduisent leur alimentation pour pouvoir nourrir leurs enfants, des étudiants sautent des repas, bref, l'insécurité alimentaire touche de plus en plus de foyers. Aujourd'hui, en France, un nombre grandissant de personnes ont faim. Étonnant comme il faut parfois une crise dans la crise pour revoir dans la lumière crue de 2020 les fractures à l'œuvre depuis tant d'années. Mais en temps de crise, c'est aussi la solidarité qui rejaillit. En cette période de pandémie, nous découvrons à quel point nos vies dépendent de l'État-providence et des services publics, fait remarquer le sociologue et ex-directeur d'études à l'EHESS, François Dubé. Et quand cet État-providence fait défaut, précisément quand l'intérêt général se fissure et que la dignité humaine se trouve écorchée, les solidarités locales colmatent les brèches. C'est ce que cet épisode de Bouffon vient raconter sous la forme d'un reportage dans le ventre d'un incroyable réseau de solidarité à Marseille dans les quartiers nord. Un récent bilan publié par des associations locales alertait sur l'ultra-précarité de la deuxième plus grande ville de France. Des milliers de tonnes de denrées alimentaires ont déjà été distribuées cette année, mais la demande ne faiblit pas. Cet épisode vous emmène à la rencontre d'une vague de solidarité citoyenne. Vous entendrez Kamel, Mohamed, Anda, Mourad, Hamid, le rappeur Mortal Liberta ainsi que Nicolas. Direction Saint-Barthélemy, le deuxième quartier le plus peuplé de la ville après celui de Sainte-Marguerite. Au niveau de la rocade L2, entre la cité Fonds Vert, connue pour être la plaque tournante du trafic de stupéfiants à Marseille, et les grands ensembles Bucérine et Rosier, se trouve une motte de terre un peu dégarnie en guise de rond-point. Autour, des voitures qui filent vers l'autoroute, un terrain vague et quelques barres d'immeubles qui s'élancent vers le ciel. Et à droite, juste après l'arrêt du bus 38 par lequel on arrive, un McDonald's. Mais sans les burgers et les frites. Parce que l'enseigne qui existait depuis 1992 a fermé il y a bientôt un an, le 13 décembre 2019, pour cause de liquidation judiciaire. Depuis, des bénévoles ont réquisitionné les locaux pour en faire le QG d'une banque alimentaire. Fin octobre 2020, alors qu'un deuxième confinement démarrait, je suis allée voir cette chaîne de solidarité déployée dans l'un des plus grands symboles du capitalisme. À l'entrée du McDo, sur le parking, j'ai commencé par discuter avec Kamel Guémari, la figure de cette initiative.
Donc moi j'ai travaillé pendant 21 ans au sein de ce restaurant, je suis l'une des personnes qui a lutté et qui lutte toujours pour le partage des richesses, pour une justice sociale et aujourd'hui ce restaurant on l'a transformé en banque alimentaire. C'est un restaurant qui a réussi à fédérer, qui est la place du village, qui est le village gaulois, hein, qui a été présent depuis 92 dans ces quartiers-là, dans ces quartiers populaires. Et moi, au sein de ce restaurant, j'ai vécu pendant 21 ans et ses habitants m'ont aidé à gagner ma subsistance. Donc, quand notre cher président nous a dit qu'on était en guerre, de suite, on n'a pas hésité, on est parti au front. Et je me suis dit que ses habitants m'ont aidé à contribuer pendant 21 ans à gagner ma subsistance, à moi de leur rendre la monnaie. Et on a réussi à fédérer pas mal d'associations, pas mal de collectifs. Il y a à peu près 47 quartiers et 52 associations autour de ce restaurant.
Selon Kamel Guémari, ce restaurant ne faisait pas que servir à manger. Son existence permettait, entre autres, de...
combattre la délinquance et la prostitution, même le radicalisme, par le travail.
Mais en fermant, le restaurant a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Une situation que la crise sanitaire de cette année n'a pas arrangée. On a continué à se balader sur le parking du McDo, au milieu des bénévoles déplaçant des palettes et des bénéficiaires faisant la queue. Karim m'a raconté que ces derniers mois, la demande n'avait fait qu'augmenter.
Ça commence très tôt. Les gens, des fois, ils viennent à 6h du matin pour être les premiers. Donc nous, on a essayé de limiter et de sensibiliser les personnes de ne plus venir comme ça. Sauf, on gère l'urgence. On a essayé de recenser plus de 14 000 personnes et on essaye de les appeler 10 par 10. Donc, comme vous le voyez là, à présent, il y a des personnes qui viennent de à peu près 8h30 jusqu'à 17h, 19h. Et on leur redistribue tout ce qu'on peut avoir. On alerte les pouvoirs publics de pouvoir nous aider, qu'on puisse accéder à la banque alimentaire, la réelle banque alimentaire, parce que nous aussi, c'est une plateforme logistique qui puisse coordonner entre associations, collectifs, habitants et bien sûr étudiants sans oublier les sans-papiers. Et on essaye de ne pas s'arrêter qu'au ventre, on répond à une détresse sociale. C'est ça qui est important, se dire la détresse sociale ne s'arrête pas que par le ventre et on essaye de répondre à toute situation avec les collectifs des infirmières qui sont là et qui sont présents et qui donnent de leur temps et d'autres collectifs qui sont vraiment des personnes qui travaillaient dans l'ombre depuis des années. On a beaucoup, beaucoup appris d'eux. Il y a des syndicats aussi qui sont présents, notamment sans oublier la CGT, Solidaire, et d'autres personnes qui sont engagées.
Aux premières loges pour voir tous les jours la précarité des uns et des autres, Karim observe que trop nombreux sont celles et ceux qui ont perdu leur emploi et se retrouvent sans filet de sécurité.
Les personnes qui travaillaient malheureusement au black ne pouvaient plus travailler ou ont perdu leur emploi. Et aujourd'hui, on arrive à une crise économique. La plupart des entreprises font leur bilan et voient qu'ils ne peuvent plus survivre. Donc, ils font des liquidations judiciaires et on se retrouve avec des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont contribué. Et de les voir aujourd'hui venir demander de la nourriture ou des renseignements sur des situations ou de pouvoir les orienter envers des psychiatres pour pouvoir essayer de soulager leur colère ou leur peine ou leur tristesse. Voilà, on redoute l'année 2021. Ça va être encore plus catastrophique.
Et dans cette situation de crise sanitaire devenue également crise économique, le profil des bénéficiaires change. Alors que la banque alimentaire fonctionne depuis plusieurs mois, ces derniers temps, on a vu l'arrivée d'un nouveau public touché.
Aujourd'hui, cette pandémie, elle a touché une classe moyenne. C'est-à-dire, c'est plus une classe populaire ou une classe pauvre, c'est-à-dire la classe moyenne, qu'elle se retrouve à avoir une petite villa, une voiture, mais le frigo vide, c'est dur. On espère que de pouvoir ce qu'on a pu faire ici au sein de ce petit village gaulois, que pas mal de petits bébés se construisent à travers de plusieurs villes et de se dire voilà, on peut s'en sortir qu'à travers la solidarité.
Aujourd'hui, pour pérenniser l'aide aux plus démunis, il est question de préempter le McDo. Une demande a été faite aux dirigeants de McDonald's France pour récupérer les locaux dans le cadre d'une opération humanitaire à caractère urgente. Sans réponse pour le moment.
Cet espace, on espère l'avoir pour toujours parce que cet espace fait partie d'une zone franche. Cet espace a bénéficié des aides des pouvoirs publics sur l'embauche, sur la TVA, sur l'optimisation fiscale. Donc l'outil de travail et le lieu, aujourd'hui si McDonald's l'ont quitté, on leur demande avec gentillesse et humanisme de pouvoir céder le lieu à la ville, que la ville puisse préempter ce lieu pour continuer à combattre la délinquance et la prostitution à travers le travail.
Parce que dans ce lieu, du coup, il y a une cuisine que vous avez pu aussi, que vous utilisez, et puis la salle du restaurant, quoi, tout simplement, qui est un espace très grand dans lequel on peut stocker plein de choses.
Exactement, c'est un lieu de vie, c'est le matériel existe, et là, on l'a préservé, l'outil de travail, en fait, on l'a préservé, l'expérience, on l'a. Dire moi, ça fait 21 ans, il y a des personnes que ça fait 27 ans, 28 ans qui ont travaillé au sein de ce lieu, que cette richesse, on aimerait bien la transmettre à une petite génération qui a été désociabilisée ou fracassée par les aléas de la vie, se dire à ces personnes, leur donner l'espoir qu'ils peuvent s'intégrer.
Après avoir remonté le parking, avec Karim, on est entré dans le McDonald's. Dans la salle du restaurant, des cartons jonchent le sol et des palettes sont disposées le long des grandes baies vitrées. Au-dessus du comptoir et des caisses, de larges banderoles taguées annoncent les couleurs de la lutte sociale. Entreprise milliardaire, salariée dans la misère. Karim me présente à
Mohamed, qui est un bénévole et qui est multitâche, qui fait des choses extraordinaires et aussi je vais vous laisser qu'il puisse s'expliquer. Merci. Parce que c'est difficile de parler à
bien
à
sûr. Je fais irruption tout à coup, peut-être que tu étais au milieu de plusieurs choses, Mohamed, ou tu as 5 minutes pour discuter un peu avec moi. Trop cool. Je vais poser ça parce que Kamel est grand en plus, alors j'étais là.
Ah d'accord, ben, ça sera plus. Tu veux t'asseoir plutôt, non, Émilie?
Fais-lui visiter en même temps, tu l'expliques.
Allez, ça
que
va.
Tu fais.
Ah, ouais. Madame est venue lundi, elle m'a dit je suis venue lundi, donc elle revient.
Venez, madame.
On y va, Émilie?
Ouais, c'est parti. D'accord.
Donc voilà, Émilie, donc je m'appelle Mohamed, je suis bénévole au sein de cette plateforme-là. Donc voilà, donc j'essaye de donner de mon temps, de mon énergie, de mon expérience. Qui a travaillé en fait dans la grande distribution pendant 15 ans dans un grand magasin de bricolage. Donc de mettre une certaine organisation avec tous les membres actifs de cette plateforme. Donc j'habite juste à côté. Donc voilà, donc du lundi au dimanche, nous sommes ouverts. On accueille les personnes et aussi on distribue aux personnes nécessiteuses les denrées de première nécessité telles que la farine, de l'huile, des boîtes de conserve, du riz et des pâtes. Voilà, ils ont besoin de tout ça pour se nourrir. Donc la faim, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas d'ethnie. Donc tout le monde est bienvenu pour qu'on puisse à ce moment-là les distribuer un peu à tout le monde.
Je demande à Mohamed de m'expliquer la provenance des dons alimentaires.
Donc par rapport au premier confinement, là c'est le deuxième confinement. Donc en fait, ce sont plutôt les déstockeurs. Donc plutôt les commerçants qui nous ramènent des denrées, ou sinon on va directement en acheter avec une cagnotte qui a été mise en ligne grâce aux donateurs. Vous avez aussi des donateurs, des habitants qui nous distribuent aussi des habits.
Tu dirais que vous êtes combien à faire tourner ici cet espace et à le tenir tous les jours?
Il y a plusieurs bénévoles, on a en fait créé un groupe WhatsApp. Donc à chaque fois qu'on a besoin de monde, donc ils viennent. Voilà, on a besoin de tant de bénévoles parce qu'on va recevoir le camion, après il y aura aussi le déchargement à faire, ensuite la mise en rayon, après la préparation de colis, il y a aussi du nettoyage, il y a aussi le filtrage qu'il faut faire aussi à l'extérieur. Donc avec la distanciation, les règles sanitaires, ça c'est important, on est quand même toujours en pleine crise sanitaire.
Là, à vue d'œil, j'ai l'impression qu'il y a à peu près une cinquantaine de personnes peut-être.
Cinquantaine de personnes, à savoir qu'avant-hier, on a distribué pour plus de 250 personnes. Donc les gens viennent, savent ce que nous faisons, donc nous réclament bien évidemment les denrées. Avec ce que nous pouvons leur donner, c'est ce que nous avons déjà reçu dans un premier temps. Donc après, ils viennent et on leur donne ce que nous avons. Comme aujourd'hui, voilà, donc on a de la farine, on a du lait qu'on a pu recevoir. Lundi, on n'avait que des fruits et légumes. Donc c'est parti à une allure extraordinaire. Donc on donne en fonction de ce que nous recevons. Donc après, là, on est en train de se regrouper pour faire à ce moment les courses, l'huile, les boîtes de conserve. Mais pour le moment, nous allons constater ensemble, la réserve est vide.
J'ai ensuite suivi Mohamed derrière le comptoir pour observer le restaurant depuis la fontaine à soda. Sur le côté, la fenêtre du drive à travers laquelle les menus McDo sont habituellement tendus aux automobilistes est devenue un guichet pour recevoir les bénéficiaires tout en respectant la distanciation sociale.
Donc ici, en fait, sur notre gauche, c'est là où nous recevons le public, comme vous pouvez le constater. C'est là où on distribue les denrées alimentaires. Donc au Mourad, maintenant, on donne voilà, les sacs de patates. Vous voyez, c'est un gros sac de patates de 5 kilos. Il y a des couches. Ils viennent de donner aussi un gros pack de lait, donc de marques quand même qu'on ne va pas citer. C'est une grande, y a quand même, on a reçu un don de palettes et là on distribue ce que nous avons. Vous avez à peu près un pack de 8 laits, pardon, de 1 litre, ça fait 8 litres qu'on distribue aux personnes.
Et après, c'est le drive.
C'est exactement, c'est le drive, donc on l'appelle le drive. Donc les personnes en fait viennent, on leur remet un ticket, donc que Karima donne un ticket, et à ce moment-là font le tour, et avec ce ticket ils le distribuent directement à Mourad, qui par la suite donne les colis que nous avons à portée de main.
Derrière la cuisine et les friteuses, plusieurs pièces servent à stocker les denrées alimentaires.
Alors derrière nous avons l'endroit de stockage, aussi des endroits où à ce moment-là vous avez les maraudes qui sont là, qui viennent stocker leurs marchandises et qui par la suite vont aller dans les différents endroits pour distribuer aussi les colis et les denrées dans les maraudes, dans les différents endroits. Nous avons aussi la maraude du corps qui est archi présente chez nous et qui vont un peu, par exemple, à Gare Saint-Charles, distribuer à peu près 300-400 personnes. Donc ici, voilà, c'est un lieu de stockage. C'est un lieu aussi où nous avons, dès le premier confinement, stocké les colis qui ont été préparés en amont. Bien évidemment, on le pose jamais au sol. On le met des caisses pour éviter, bien évidemment, tout ce qui est bactéries. Donc, on est vraiment très sensible sur l'hygiène. Ensuite, là, sur la gauche, vous avez directement une chambre froide, là où on stocke les fruits et les légumes. Donc, si vous avez une veste, c'est une bonne chose. Sinon, si on rentre à l'intérieur, on va avoir froid. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le constater, là, c'est vide. Donc, lundi, c'était vraiment plein. Il y avait vraiment des fruits, des légumes, de toutes sortes, des ananas, des bananes, des pommes. Il y avait vraiment de tout. On avait déchargé juste la veille un camion. Donc c'était un maraîcher qui nous avait eu la possibilité d'avoir tous ces dons-là. Et lundi, eh bien voilà, en une journée, avec plus de 250 personnes qui sont venues, donc on a tout donné. Donc voilà, donc pour le moment, on est vide. Et on donne ce que nous pouvons offrir aux personnes réclamant les denrées.
En ouvrant une porte au fond du restaurant, qui donne sur le parking aux marchandises, je croise une infirmière, Anda. Celle-ci m'explique pourquoi aujourd'hui, comme chaque semaine, une dizaine d'infirmières se sont donné rendez-vous derrière Merci. Le McDonald's.
Donc, en fait, c'est une distribution de kits de protection que nous faisons aux infirmières libérales. Nous sommes toutes des infirmières libérales. Pendant le confinement, en fait, le premier confinement, on n'a pas eu de matériel de protection. Tout a été récupéré et renvoyé aux hôpitaux. Et les infirmières de ville, celles qui sont sur le front en premier, qui ont été obligées d'être face à la maladie sans aucune protection, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc on a pris l'initiative de contacter des entreprises, des associations, des particuliers qui sont venus et nous ont remis gracieusement du matériel de protection, notamment des blouses, des surblouses, des masques, des gants, des charlottes, des surchausses, du gel hydroalcoolique, chose qui ne reste, il n'y avait plus rien sur le terrain en fait. On ne trouvait plus rien. Donc du coup, on a commencé pendant le confinement à faire de la distribution aux infirmières libérales. On a fait ça pendant 9 semaines pendant le confinement. Et en contrepartie, les infirmières libérales nous ramenaient des denrées alimentaires. Et tout ça dans la solidarité. On a fait en sorte que la chaîne de solidarité soit maintenue, parce qu'on a constaté aussi auprès de la population, parce que nous sommes des infirmières de terrain, nous avons constaté en fait que dans les frigos, chez les personnes, il ne restait plus rien. Il n'y avait rien. Donc il fallait qu'on aide la population en fait, d'une manière. Et on a décidé de faire ça. Donc de récupérer des denrées en échange de protection.
Et donc, tous les jours, vous avez de la visite, alors, j'ai l'impression
Là, on a repris, là, depuis le confinement. On a reçu... En fait, celle-ci, c'est la deuxième depuis le second confinement. Et c'est vrai qu'on touche pas mal d'infirmières, ouais, qui sont encore vraiment en pénurie au niveau de protection pour pouvoir intervenir auprès de nos patients. Voilà. Donc, ça perdure.
Et donc, vous qui êtes vraiment aux premières loges pour voir les patients, qu'est-ce que vous observez depuis la pandémie?
Très grosse pauvreté. Très grosse pauvreté, très grosse détresse, parce que il y a plus de travail, ils se retrouvent confinés, enfin dans un domicile à 60 mètres carrés, des fois même plus petit, hein, à plusieurs, et franchement il y a une très grosse précarité. Voilà, malheureusement on a une population dans les quartiers nord qui est assez précaire, et là c'est vraiment plus de la précarité, on peut dire carrément de la pauvreté. Voilà.
Le deuxième confinement n'arrange rien, en tout cas, on n'a pas observé de changement pour le mieux depuis.
Il n'y a rien, non, bien au contraire. Les gens ont faim, ils sont toujours à la demande. Ils essaient, ben, la preuve, là on est en train de faire de la distribution de matériel. Les infirmières nous ont ramené quelques denrées, les gens viennent nous voir pour qu'on leur en donne. Bon, malheureusement, on ne peut pas leur dire non, on essaie. Voilà.
Donc les infirmières, c'est les denrées qu'elles vont chercher par elles-mêmes.
Tout à fait, oui, oui.
C'est vraiment la chaîne de solidarité dont on
parle. Exactement, oui, et on espère qu'elle va perdurer. En espérant que la situation s'arrange, on garde espoir.
Quand je quitte Anda pour revenir dans le McDo, je retombe sur Mohamed qui vient de réceptionner un don.
On a reçu 240.
245 pommes de terre.
Ouais, c'est un don.
Ouais.
C'est un commerçant. 240 et on a reçu les palettes de farine aussi. On en a reçu 6 palettes. Vous vous rendez compte ? 6 ouais. palettes, vraiment. Il a vu, il a entendu, il est venu avec une belle voiture. Donc ça veut dire que vraiment cette personne-là, ce commerçant-là, avec son grand cœur, nous a livré 6 palettes de farine, 6 palettes de farine et plus des patates.
Ce qui est intéressant avec ces ingrédients, c'est que ce sont des ingrédients en plus qu'on peut vraiment utiliser dans plein de recettes, faire plein de plats avec.
Les patates, c'est les frites. Ouais. Après, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec les patates. Avec la farine, on fait énormément, on va dire, de gâteaux, on peut faire pas mal de choses. Moi, je suis pas cuisinier. On fait la purée aussi, exactement. Donc, c'est vrai que là-dessus, on peut vraiment, avec ces produits-là, faire beaucoup de bonnes choses. Et ce sont des produits de première nécessité.
À côté de nous, Mourad Akies, celui qui travaille au Conseil Général, vient donner un coup de main ici lors de ses jours de congé. Il aime particulièrement occuper le poste de distribution derrière la fenêtre du drive. En voyant le micro, il a tenu à appeler à la générosité de chacun.
Je lance un appel à tout le monde qui nous entend. On a besoin des dons. S'il vous plaît, donnez-nous étatique ou privé. Celui qui m'entend, on est en détresse, on n'a rien du tout dans notre réserve et frigo. C'est vide, vide. Et on fait tous les jours, on distribue tous les jours. Hein. Avant, on ne distribuait que le lundi. Là, aujourd'hui, c'est tous les jours. Presque tous les jours, il y a toujours qui viennent. Et on ne peut pas dire non. Impossible, on ne peut pas dire non. On n'a pas cette mentalité de dire non, revenez demain. Non, on donne ce qu'il y a, on donne.
J'ai ensuite cherché à parler à des bénéficiaires.
Vous êtes d'où ? Vous êtes d'où ? Elle ne parle pas le français.
D'accord.
Et c'est une bénéficiaire qu'elle vient ici, on lui donne ce qu'on a.
Oui, d'accord.
Elle a l'habitude. Elle a l'habitude, à chaque fois, on lui donne. Et si on n'a pas, on donne le sourire. Hein. T'as un cabas ? Vous avez un cabas ? Prenez les cartons derrière. Ouais.
Fromage râpé. Ouais.
Puis je suis tombée sur un monsieur à la fois bénévole et bénéficiaire.
Je suis Hamid, je suis au fait un sans-papier. J'ai une famille en charge et au fait je représente aussi une association des sans-papiers dans un collectif à Marseille. On s'organise dans cette solidarité qui se forme de plus en plus. Et du coup, je suis très, très content. J'étais bien servi. J'ai eu des choses qui ont été vraiment utiles pour moi, pour survivre avec ma famille.
Comme quoi, par exemple ? Quel type de denrées vous ont aidé ?
J'ai eu pour l'instant un coulis. Donc, il y a des produits secs tels que le lait, quelques conserves, concentré de tomates, il y avait eu des produits surgelés, de la viande, des steaks hachés, il y avait eu des fruits et légumes en variété, et quelques gâteaux et chocolat pour les enfants aussi. Il y avait eu même des vêtements pour ceux qui ont besoin, voilà.
Et le confinement, le Covid cette année, ça a eu quelles conséquences sur votre situation économique à vous ?
Cette année, comme cette deuxième vague et ce deuxième confinement, c'est pareil comme le premier. On a perdu notre emploi, qui est évidemment en black, n'est pas déclaré. On a perdu notre emploi pendant le premier confinement et c'est pareil pour ce reconfinement. On s'est retrouvé au chômage sans aide et sans aucune de la part de l'État. On n'a pas reçu d'aide, on n'a le droit à rien du tout. Donc, du coup, on n'a de l'aide qu'à travers quelques associations et quelques bienfaiteurs et donateurs.
En tant que représentant d'une asso de sans-papiers à Marseille, Hamid recense également ces personnes isolées venues en France avec un visa, mais désormais coincées ici sans ressources. Un peu plus loin, je croise également un rappeur marseillais du quartier venu tourner un clip.
Moi, je m'appelle Morta Liberta, donc je suis artiste indépendant sur Marseille. Donc je fais du rap. À la base, moi, je travaillais dans le social. Et voilà. Donc là, on est actuellement au McDo de Sainte-Marthe, qui aurait dû être fermé normalement. Mais heureusement qu'il y a le manager Kamel qui se bat beaucoup pour ses équipes, pour éviter justement la précarité et le licenciement de poste, qui n'est pas justifié au vu des chiffres de bénéfices qu'a McDo, bien sûr. Donc moi, ça fait bientôt un an que je les suis, que j'essaye de les aider quand j'ai du temps, donc de venir soutenir sur les actions, tout ça.
Et qu'est-ce que tu veux faire exactement ici, dans ce McDo ?
Donc dans le McDo, on a prévu de tourner un clip qui va s'appeler « Génocide social ». C'est un son que j'ai écrit où on parle du fait de société, qui a été écrit au tout début du confinement, donc c'était vers février-mars 2020. Donc c'était pour parler par rapport au Covid, tout ça, mais pas que ça, c'est tous les problèmes de société qu'on peut y retrouver, parce que ça date depuis avant ça, comme si on dit par exemple les infirmiers. Je pense que le problème, il vient pas que depuis la crise sanitaire, mais depuis quelques années où on supprime des postes et on refuse d'aider, de créer des postes pour pouvoir faire avancer les choses. Et ce qui fait qu'au final, bien sûr qu'on s'y retrouve pas et qu'on dira qu'on n'y arrivera pas. Donc là, comme c'était symbolique, comme McDo, c'est un peu une grande chaîne du capitalisme qui sont les piliers du fast-food dans le monde. Et vu ce qui s'y passe et qu'ils veulent le fermer, on a trouvé que c'était le bon endroit pour parler du génocide social, parce qu'on pense que c'est réellement un génocide, parce que c'est toute la société qui est touchée maintenant. C'est même plus question des gens les plus pauvres dans les quartiers où on se rend compte que même dans la ville, personne n'est épargné. Même des restaurateurs, des gens qui gagnaient très bien leur vie aujourd'hui, ne savent plus comment ils vont s'en sortir et que ça va finir par tuer tout un pays, je pense, à la fin.
À côté de lui, son acolyte, Nicolas.
Donc bonjour, moi je m'appelle Nicolas, j'habite au parc Corot. Donc là, on est en direct du McDo Sainte-Marthe, qui était un lieu pour moi où les jeunes des quartiers, les parents, jeunes, tout le monde pouvait se retrouver, où on pouvait se connecter à Internet pour pouvoir bénéficier justement de l'accès à Internet, parce que pas tout le monde a Internet pour pouvoir faire ses démarches administratives, Pôle emploi, CAF, etc. En faisant ça, on renvoie les jeunes vers la délinquance, parce qu'en acceptant d'être exploité par McDonald's, ils travaillent des heures exponentielles pour un salaire qui est bas. Et en les licenciant comme ils font, en fait, ils font le jeu de l'État qui fait que dans les quartiers, on voit que la délinquance. On ne cherche pas à essayer de sortir les jeunes de ce cercle vicieux qu'est la délinquance. Si on les renvoie à l'emploi comme ça, le jeune, il ne voudra plus aller vers un patron parce qu'il aura eu trop de déceptions et ce sera compliqué pour eux. Ouais. Après, je dis, dans les quartiers noirs, ça manque beaucoup. Il n'y a plus d'endroits où on peut se rassembler, où on peut avoir des endroits comme ça, ce qui est dommageable.
L'après-midi est maintenant entamé. Et au niveau des jeux pour enfants, sur l'esplanade du McDo, les bénévoles prennent enfin leur pause bien méritée et font griller des merguez. Les discussions vont bon train, les rires et les chamailleries s'enchaînent joyeusement. J'ai le sentiment de voir devant moi des gens appartenant tous à une famille de cœur. Après des semaines, voire des mois pour certains, à se mobiliser ensemble, à porter des cartons, à préparer des colis, à faire connaissance avec les bénéficiaires, partager des savoirs entre associations, une amitié semble être née. À l'image d'autres coins de France, où, face à un vide laissé par l'État, les citoyens s'organisent. Dans les grandes métropoles, avec les maraudes sociales, en zone périurbaine, avec des collectes sur les parkings des grandes surfaces, et parfois aussi, de façon plus informelle, en zone rurale, loin des circuits médiatiques. En France, cette année, le nombre de demandeurs d'aide alimentaire a augmenté de près de 25% selon la Fédération des banques alimentaires. Si vous souhaitez aider ou trouver une aide alimentaire, rendez-vous en description de cet épisode pour consulter des liens qui peuvent vous être utiles.
Oh non, c'est gentil, merci beaucoup.
Non,
j'ai
mangé.
C'est light, ça ne consomme rien du tout.
Échanger.
Oui, bah oui.
C'est tentant, hein.
Bah, j'ai le droit visiblement alors que j'ai déjà mangé.
C'est bon, tu fais pour Émilie.
Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Charline Yao. Montage par Marine Rowe, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.
Mahmoud Boualem, d'Algérie.
C'est comme un coup de cœur.
Exactement, c'est comme Sélecto, on va dire. Vous avez déjà goûté Sélecto ?
Non, je crois pas.
Voilà. Bah, Sélecto, c'est ça. Ah, bah, tu vois. Bah.
Ça non, le bon calage.
Ouais, d'accord.
Sélecto, c'est Québec.
Ok.
Québec. C'est Québec, hein ?
Non. Non.